La question de Raphaël.
Est-ce qu'il y a une limite au chesed?
Est-ce qu'il y a une limite au chesed? Une limite à la bienfaisance, faire du bien autour de soi. Alors, oui, il y a une limite.
Merci.
Ouf. Le Rambam a écrit une, on appelle ça une épître, d'accord, une lettre. On appelle ça Igeret Teman, épître au Yémen. À l'époque, les Yéménites, chez les Yéménites, il y a un type qui s'est levé qui a dit qu'il était le Messie. Et les Yéménites ont écrit au Rambam pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec celui-là. Est-ce que c'est juste, c'est faux, qu'est-ce qu'on fait de ce monsieur-là? D'autant plus qu'il y a un danger, parce que s'il va commencer à faire du bruit, alors l'État yéménite risque de se venger et de faire un pogrom contre les Juifs. Si on veut l'éliminer, on va se faire accuser de meurtre aussi. Qu'est-ce qu'on fait de ce monsieur-là qui nous met en danger? Et peut-être que c'est un vrai Messie. Le Rambam écrit une lettre extraordinaire. Extraordinaire, je veux dire, c'est le résumé des séminaires, c'est, il parle des piliers de la Emouna, de la croyance en Dieu. Yéménite souffre énormément. C'est très très beau, très grand, il parle de l'époque messianique, comment ça aura lieu, quand vient le Messie, il a même donné une date. Et il parle, une fausse date. Et il parle de ce faux Messie. Il dit, c'est certain que c'est un faux Messie. D'abord, le Messie doit se dévoiler en Israël, pas au Yémen. Ensuite, qu'a dit ce Messie? Le Messie, il a dit, le Messie là-bas des Yéménites, il a dit que tous les riches donnent leur argent donnent tout leur argent aux pauvres. Ah, il dit, alors qu'est-ce qui va se passer? Les riches deviennent pauvres. Alors, les pauvres sont devenus riches. Ah, maintenant, si la logique dit que quoi? Que tous les riches sont devenus, que tous les pauvres sont devenus riches maintenant, qui sont riches, ils donnent tout l'argent de nouveau aux riches qui sont devenus pauvres. Après, les riches qui étaient pauvres, qui sont devenus nouveau riches, vont redonner, on va donner au ping-pong. Ça tient pas la route. Chazal ont interdit de donner plus de 20% de ses revenus. Il y a des exceptions. Quelqu'un qui est très très riche peut donner plus, doit donner plus. Il y a l'histoire de Nakhdimon Ben Gurion. C'était un des grands riches qu'il y avait à l'époque en terre d'Israël, très très riche. Et la Gemara raconte que Rabbi Meir, il a vu sa fille rechercher des graines de blé dans les crottes des animaux. Que peut-être il y a des morceaux qui sont restés encore, des morceaux de graines qui sont restés encore entiers, tellement elle était affamée. Il dit, mais comment tu es la fille de Nakhdimon Ben Gurion, il était multimillionnaire. Comment ça se fait que tu es arrivé à cet état-là? Il dit, mon père n'a pas donné assez de tzedaka, mais il donne énormément. Pour son niveau, pas assez. Donc il y a aussi une notion, il faut donner des fois plus que 20%. Quand c'est, pour, par exemple, pour Kapara Tavonot, c'est bien donner la tzedaka pour expier ses péchés. On peut donner plus de 20%. Pour Azaka Torah, pour tenir la Torah, ou dans la mesure où quelqu'un qui donne de l'argent pour tenir la Torah, donc il devient associé à l'étude de Torah qui est faite, étant donné qu'il reçoit énormément, pour le peu d'argent qu'il donne, il ne donne que des sous, d'accord, il reçoit de la Torah qui est une chose infinie, donc il fait une bonne affaire. Donc quelque part, ce n'est pas un don, c'est un don, mais c'est aussi une bonne affaire pour lui, donc il peut donner plus. Mais en gros, Chazal ont donné des limites, sinon, quelqu'un qui veut être trop bon, il se met en danger. Et ça arrive, c'est facile de tout dilapider, tout donner, et puis se retrouver. Il y a des cas de gens qui ont voulu être trop généreux, donner trop d'argent, et ça a mal fini. Shulchan Aruch dit, on ne peut pas devenir pauvre de la tzedaka. Mais on parle d'une tzedaka qui est donnée normalement. Si quelqu'un maintenant, comme le cas du Rambam, quelqu'un il donne tout ce qu'il a, et dit, c'est marqué que je ne serai jamais pauvre par la tzedaka. Non, mais reste normal. Donc il y a des limites. C'est au niveau de l'argent. Au niveau du don de soi, il y a la Gemara dans Bava Metzia raconte que, je me souviens, c'est Ben Petora qui disait comme ça, qui disait que s'il y a deux personnes dans le désert, et ils ont une gourde, et si on la partage, les deux vont mourir, parce qu'il n'y a pas assez pour les deux. Néanmoins, et la personne ne peut pas la garder. Pourquoi? Parce que, quelque part, il devient assassin de l'autre. Rabbi Akiva vient et prouve, d'après la Torah, que non, ta vie passe avant. J'ai un devoir de bienfaisance à moi-même qui passe avant mon prochain. Si c'est lui ou moi, ben c'est moi. Maintenant, comment ? Pas dans tous les cas. Si je suis dans une situation maintenant de non-action, je reste passif, j'ai la gourde, je n'ai pas l'obligation de la donner à mon prochain. Parce que entre faire une action de don et faire aucune action et faire un don vers moi, donc il y a deux dons à égalité, on a égalité les deux. Maintenant, un, je ne fais rien, ça reste chez moi, un, je lui donne. Pourquoi donner ? Je laisse la situation comme elle est. Mais si c'est contraire, par exemple, on me dit « tue quelqu'un ou je te tue ». Je pourrais dire « Khaïkha Kolbi, ma vie passe avant, donc je tue ». Non. Là, vu que tu es actif pour aller tuer quelqu'un d'autre, pourquoi t'irais tuer quelqu'un d'autre de façon active ? Tue-toi, laisse-toi toi tuer. Là, au contraire, la halakha va dire comme ça. Reste-toi passif, fais-toi tuer, plutôt que de tuer ton prochain. Comme dit Gemara, ton sang n'est pas plus rouge que le sang de ton prochain. Donc il y a des lois. Il y a des lois à qui, quoi, comment. Mais en général, donc il y a des limites. La question est comme ça, voilà. Est-ce que, parlons de cas classiques, est-ce que, voilà, maintenant quelqu'un, son fils, Rassé Shalom, d'accord, est malade, il a besoin d'un organe vital. Est-ce que je peux maintenant, quelqu'un peut donner son organe vital à un autre pour que l'autre vive et lui pas ? Non.
Ça
suicide. C'est certain, vital, c'est-à-dire que sans ça, il meurt.
Oui, c'est sûr qu'il meurt, mais sans ça, qu'est-ce qu'il va vivre le deuxième ?
Même si c'est son fils ?
Même si c'est
son fils, bien sûr, ça ne change rien. Son fils, pas son fils. On peut en prière. Raphaël Curiel m'avait raconté, il avait une connaissance, une jeune fille. Non, ouais, il connaissait une jeune fille qui avait une très bonne amie qui a eu la maladie, généralisée, cancer généralisé. Mais ça, on dit, aucune chance. Un mois plus tard, je lui demande comment elle va. Elle me dit, guérie. Quoi ? Ouais, sa grand-mère, qui porte le même nom, elle a dit à Hachem, je porte le même nom que ma fille. Laisse la vivre, prends-moi, moi. Le lendemain matin, elle ne s'est pas levée, elle est morte, l'autre, elle a guéri. Hein ? En prière. Ça, on peut faire. Si Hachem décide, ça va.
Comment c'est qu'elle dit ça ?
Pardon ? Elle a dit, ma mère a dit que prière, elle a fait « Rabbi !» Elle est en marocain, les gars. C'est pas un S. Bon, prends-moi moi et laisse-la vivre. Non, c'est pas un S. C'est une prière. C'est pas un S. Ouais,
si tout le monde, tous les messieurs, c'est un truc qui va passer, c'est un S.
On peut demander que quelqu'un maintenant, qui du point de vue médical, il n'a aucune chance de s'en sortir, on peut prier pour qu'il guérisse. Et qu'il guérisse, il y a eu des miracles, bon, prochain, il y en a eu, bien sûr qu'il y en a eu. En prière, un S médical, c'est quoi un S ? J'aimerais voler, que quelqu'un il vole dans les airs. Non, c'est bon, je ne sais pas. Mais quelqu'un maintenant qui est malade et qui, d'après la séance, n'a aucune chance de s'en sortir, on sait que la séance se trompe très souvent. En Israël, les médecins, ils ont appris. Ils disent plus rien, ils disent prier, et très souvent, ils voient que ça marche. Bien sûr que ça marche.
Je ne sais pas, on demande si c'est pas lui qui demande un NES.
J'ai dit que oui. Médical, oui. Alors, quel NES ? Un NES médical, oui, parce que c'est pas tout à fait un NES. C'est pas un NES galoui. C'est pas un fumigène, poum, qui explose, et tout d'un coup, t'as quelqu'un qui dit bonjour, d'accord ? C'est pas...
C'est... Oui,
mais les médecins disent ce qu'ils veulent. On sait que les médecins, ils savent rien. Pas grand-chose. Le Stapler disait, les gens croient que les petits médecins savent peu, les grands médecins savent beaucoup. C'est faux. Les petits médecins savent rien, les grands médecins savent peu. Et les grands médecins savent qu'ils savent peu. Les grands médecins, ils ont expérience, ils savent qu'ils savent peu, surtout en Israël. Ils voient et ça, que ça, ça défie toutes les lois de la... très souvent.
On n'a pas le droit de demander à un S si on n'a plus le choix. Si on a une chance qu'on s'en sorte, on peut demander un S, mais si on ne peut pas demander un S, mais s'il y a vraiment plus de chance qu'on s'en sorte, on a le droit de se retourner vers
Hachem. On peut demander un S.
S'il y a vraiment plus de chance.
On peut demander un S. C'est quoi un S ? Donne-moi un exemple.
Non, parce que je vais vous poser, c'est quoi différent entre une prière et un S ?
Hein ? Quelqu'un qui est en chute libre maintenant. Si j'ai pris Hachem, fasse que je tombe maintenant dans une meule de foin.
C'est pas
un S. Et à ce moment, il y a un bus qui arrive, il y a un truc, une meule de foin, tac, il arrive, il tombe là-dedans. Ouais, bon, un S, pas un S. C'est pas un S. C'est pas un S. Ouais, il y a eu un concours de circonstances très, 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 très heureux. D'accord ? Voilà. Il y avait une chance sur un milliard, mais il y avait une chance sur un milliard. Ça peut rentrer, c'est encore naturel, mais c'est pas tout à coup, il a vu un ange qui vient comme ça, t'as un coucou, il le prend comme ça, hop, il le dépose, ça. C'est rare. C'est rare. Par contre, quand c'est moitié-moitié, c'est difficile. Alors, il y avait un cas, à l'époque, j'avais entendu, le Rav avait fait un cours, il y avait un bus de Tel Aviv à Jérusalem qui arrivait à côté de Telston. Telston est une grande ligne droite. Et à droite, il y a un ravin. Dès lors, ils ont mis maintenant une double barrière, avec une petite barrière, maintenant une grosse double barrière. Il y a un Arabe qui est venu, qui a sauté sur le volant et qui a commencé à tirer le volant à droite pour que le bus parte dans le ravin. Et le conducteur, il retient, à la fin, le bus, il est parti. Et il tombe comme ça, il dégringole, tac, 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 tac. Là, en bas du ravin, il a pris feu. Au Watteson, il y a une yeshiva. Tous, ils ont vu ça, ils sont tous descendus en courant. Et quelques personnes ont été éjectées du bus, mais ils ne pouvaient pas bouger. Il y avait une femme qui était immobilisée, elle était paralysée. Elle a dû recevoir un coup, et le feu commençait à s'approcher d'elle. Et bon, yeshiva, je vous raconte la suite, parce que ce n'est pas beau. Ouais, bon. C'est pas joli. Le gosse, il arrive, tout ça, et elle lui dit, viens, 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 tire-moi. Il essaye, le feu vient, il n'a pas réussi. Et il a brûlé. Ah, est-ce que lui, maintenant, il aurait dû rentrer dans le feu, se brûler maintenant pour la sortir? Rentrer en safek pikuach nefesh, il rentre en doute que peut-être il va mourir pour peut-être sauver quelqu'un. Personne ne peut trancher le pied à la fin. Il y a deux avis.
C'est une avalanche?
Non, parce qu'il y en a qui disent que oui.
C'est
un safek. On ne tranche pas. Hachem l'a dit que Dieu ne nous amène pas en situation de Nisayon.
Amen.
Il y avait le cas terrible d'un bus qui était passé à Jéricho. Et les Arabes ont lancé un cocktail Molotov et le bus a pris feu. Les passagers sont sortis. Et la mère s'est rendue avec son mari. Puis elle s'est rendue compte que les deux enfants, ses deux bébés, les deux petits-enfants étaient restés dans le bus. Elle dit, je ne peux pas rester comme ça. Elle est rentrée dedans. Rentrer dedans pour les sauver et les rester.
Ils sont sauvés, les enfants, pas sauf.
Ben non, tous morts dedans. La mère, les deux enfants, et le papa s'est remarié avec la sœur de la mère. Hein? C'est pas Iboum, non. C'est permis. La sœur d'une femme est interdite tant que la femme est vivante, mais une fois qu'elle est morte, on peut se marier avec sa sœur. Alors les beaux-parents ont dit, viens, t'es comme notre fils, marie-toi avec la deuxième sœur, il s'est marié. Ils ont beaucoup d'enfants, ils vécu heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Bon, c'est difficile. Ouais, faut savoir bien la cause, peut-être bien potasser un peu tous ces jours-là, parce que c'est des choses qu'on ne peut plus juste arriver souvent, ce genre de situation, on est à l'armée et tout ça, c'est des trucs courants. Il y a un monument ici, quand on descend pour aller au Mont des Oliviers. Une erreur, c'est durant la guerre des six jours, il y a une erreur de Nivout, d'orientation. Et au lieu de prendre une route qui rentrait dans la vieille ville, ils ont pris une route qui amenait à un pont. En face de la montagne, il y avait toutes les fortifications jordaniennes. Et ils tiraient dessus sans cesse. Et il y avait des tas de blessés par terre, et les Jordaniens tiraient. Alors il y en a un qui allait comme ça sous le feu, il prenait un blessé sur lui et remontait en courant. Je crois qu'il a fait 10 fois l'aller-retour. Il a sauvé 10 personnes comme ça, ou 12, je ne sais pas combien. À la fin, hein, ils l'ont eu et il est mort.
Il
n'a
pas fait
de mitzvah.
Hein?
Il a pas fait de mitzvah. Je pense qu'il a fait une très grande mitzvah. Je pense qu'il a fait une très grande mitzvah. Je pense qu'il l'a fait.
Non, il est
rentré
dans une
avéra,
même s'il
est sauvé.
Il
n'est
pas
chaud. Non, c'est j'ai bien dit. Safek rentrer en pikuach nefesh pour Safek sauver quelqu'un. Il a sauvé 10, mais il avait un Vadaï. Il a fait un Safek pour Vadaï sauver. Il a fait un Safek et Vadaï l'a sauvé. Quand j'étais à l'armée, la guerre du Liban, on recevait un petit journal comme ça à l'armée chaque mois. Il raconte maintenant un commandant qui avait dans son unité un très bon commandant de tank. Il avait le commandant de l'unité et il avait une plouga, donc 12 tanks. Il avait un très bon commandant de tank. Il était toujours en première ligne. C'est lui qui allait en premier. La guerre du Liban, il y avait 3 routes. C'est un grand bouchon. C'est le premier qui se battait, d'accord. Donc c'est connu, le premier, il est super vulnérable, quoi. On sait que le premier tank, d'habitude, il termine pas la guerre, d'accord. Et pendant une semaine, toujours celui qui mettait en premier. Pourquoi? C'est le meilleur. Donc je mets en premier. Puis à la fin, il a sauté. Alors, est-ce que le commandant, il avait raison ou tort? Ben lui, il dit, c'est le meilleur, je le mets. Pas évident. Alors on met un autre à la place. Je crois qu'Alpi Allah, il avait raison de faire comme ça. Là, d'abord tu mets un autre. Alors l'autre, alors voilà. Pourquoi tu mets un autre à la place de l'un? Tu mets le meilleur.
Il y a plus de chances de s'en sortir.
En plus, voilà. Ah, c'est très difficile. C'est méchant. Ouais. Maintenant, le chesed au niveau du don de soi. Alors, par exemple, est-ce que je dois arrêter d'étudier pour aller aider quelqu'un? La loi, elle dit des choses claires. Tu peux étudier qu'à deux conditions. C'est une mitzvah que si on ne fait pas maintenant, elle va passer, et que personne d'autre peut la faire. Mais si quelqu'un d'autre peut la faire, pourquoi tu devrais arrêter toi d'étudier? Étudie. Donc on voit que c'est pas...
Si en plein milieu de l'étude, on n'arrive plus à étudier, est-ce qu'on a fait une erreur?
Alors, t'es plus en train d'étudier.
J'ai encore une heure des commandes.
T'arrives plus à étudier.
T'as 5
heures t'arrives plus à étudier. Donc, tu te serais arrêté de toute façon.
Moi, je ne savais pas.
Hein?
À la base, je ne savais pas comment j'avais eu du mal. Mais il y a une avéra à ça.
Ah, je n'ai pas compris ce qui s'est passé.
Vous avez dit comme quoi, si maintenant quelqu'un d'autre peut le faire.
Quelqu'un me dit, viens maintenant faire un chef à brochot. On a besoin d'un dixième.
Alors,
je n'ai pas le droit de dire. Pourquoi je viens prendre? Il y en a dans la rue. Va prendre quelqu'un qui est au bistrot. Pourquoi je viens prendre quelqu'un à la yeshiva? Toujours quand il y a besoin de 10 personnes, il y en a à la yeshiva. C'est le contraire. Va prendre les gens dans la rue. Alors, maintenant, le type, il est resté à la yeshiva.
Maintenant, il n'a pas appris au final.
Et pas du tout. 5 minutes.
Mettons, il n'a même pas appris du tout.
Alors, du tout.
Ouais.
Il a raté.
Il a raté même la mitzvah.
Bah, il a raté.
Il
ne
savait pas.
Il a fait le bon choix. Il s'avère qu'il a raté. Il a fait au moment du choix. Il a fait un bon choix. Mais rétroactivement, il s'avère qu'il s'est trompé.
Si je sais que ça va empêcher que mon étude soit optimale. Parce que je vais cogiter sur est-ce que vraiment le chassé a été fait, je passe à un vrai cas où ça nécessite que
ça fait
une bonne occupation de du chassé. Alors je peux envoyer quelqu'un à ma place, mais je sais que moi ça va m'empêcher de bien étudier, je vais penser à ça, est-ce que ça a bien été fait, est-ce que ça a bien été fait, la personne s'en est sortie ou pas.
Donc il y a un ça fait que la mitzra sera faite, oui ou non?
Non, il y a un ça fait, est-ce que moi je vais réussir à bien étudier maintenant que j'ai envoyé quelqu'un parce que je vais quand même être occupé sur...
Pourquoi tu seras occupé?
Mon esprit va y aller.
Tu seras moins calme. Ok, la moitié que tu as, tu l'as. C'est mieux la moitié que rien. Non?
Est-ce qu'il vaut mieux pas que je prenne cette mitzvah qui sera complète plutôt que d'avoir
une moitié d'études? Une moitié du Torah, c'est une moitié d'études complète. Non? Toutes les 5 minutes, tu réfléchis à ce truc. Mais entre chaque les 5 minutes, tu as 4 minutes où tu es en étude. Bah, tu as gagné.
Alors, la mitzvah d'études de Torah, c'est chaque seconde?
Oui, chaque seconde, chaque millième de seconde. C'est vrai qu'on doit donner on doit rendre justice pour le temps d'avaler la salive.
Hein?
On peut demander l'histoire de Vilna qui pourrait juste
8 minutes.
C'est des lacets, pas de la salive.
Ouais. Et même sur la salive.
Ça dure quoi?
Mais quand de Vilna, Yom Kippour, c'est marqué, il y a un verset qui dit ça. Il y a un livre qui s'appelle Binyan Olam. Bien Olam qui parle du Bitlout Torah, qu'on déconseille parce que après tu. Non mais c'est bien, hein. il te parle de. C'est bien, c'est un truc de Chazal qui va très souvent, on a donné le din, je vous le retrouve, si vous voulez. Il y a un verset là-dessus. Bliat Rock, le temps d'avaler la salive. T'as perdu. T'aurais pu étudier maintenant le temps d'avaler la salive.
C'est naturel, la chimie écrit comme ça.
Non, mais étudie en même temps, en pensée. Ouais. Rav Hassaman, il avait mis un stander à côté des toilettes. Il est avec le bouquin. Tac, il pose le bouquin, il rentre dans les toilettes, tac, il ressort.
Mais non.
Si.
À tes toilettes, direct.
Ouais. Ouais.
Alors, pour nous qu'aujourd'hui, on fait pas mal avec tout le
temps. Ouais, pas mal beaucoup.
Pas mal trop.
Ok, ce qu'on peut.
Le type, il faut le sauver quand même, non?
Hein?
Même si quelqu'un d'autre peut le faire à notre place, autant qu'on se lève, on va le sauver, non?
Non, parce que, comme j'expliquais. Toi, maintenant, pendant 3 heures, voilà, on te vient ce soir. Ce soir, tu as un programme de 3 heures d'études. Ah, maintenant, tu vas mal étudier pour eux. Tu vas étudier combien? Une demi-heure. Mieux vaut une demi-heure que rien.
C'est pas rien, c'est une mitzvah.
Ok. Entre une demi-heure de Torah et une mitzvah que quelqu'un d'autre peut faire. Elle sera faite, la mitzvah. Donc pourquoi non, tu vas sacrifier une demi-heure? Une demi-heure de Torah, c'est énorme. C'est combien de gouttes de salive, une demi-heure de Torah?
Je préfère un sachar sur plutôt qu'une demi-heure.
Mais t'as un sachar sur pour la demi-heure. T'as un sachar sur, t'as un mérite sur pour la demi-heure. Il est super sûr.
Quel est le plus grand?
T'as étudié. L'étude de Torah, elle passe avant tout. que si maintenant personne pourra faire cette mitzvah, elle va passer. Alors tu as la mitzvah d'arrêter la grande mitzvah que tu dois faire, la petite mitzvah qui est celle du chesed.
Par exemple, le rabbi de Lubavitch qui passait des billets de $1 toute la journée.
Oui.
Il
n'est
pas mis tout le temps.
Mais personne d'autre aurait pu le faire.
Déjà, personne ne pouvait le faire, ça.
Oui, mais avec le petit rabbin. Ils vont venir les gens avec le dollar du petit rabbin.
Non, mais en plus, c'est juste un dollar. C'était pas le aux gens, c'est pas un dollar.
Il fait un chizouk. Personne ne pouvait faire que ça que lui. Moi, je réponds aux mails toute la journée, je comme un âne à répondre aux mails des gens, d'accord. Je mets quelqu'un d'autre. Mais ça ne s'intéresse pas la réponse de M. Tartampion. Il veut
Rabchak. Ça, c'est pas votre réponse. C'est quoi la réponse de la Torah, non?
Ouais, c'est ça, Alakha, Alakha. Si, c'est Alakha. Ouais, pour Alakha, oui. C'est la seule fois que je fais un peu Torah dans mes mails, c'est quand il y a Alakha. Je garde pour moi. Donc, personne d'autre peut le faire. Hein. Mais ça, de faire ça.
Et si quand je fais du chesed, ça fait du mal à l'autre?
Ça veut dire cigarette, c'est complètement interdit.
De donner une cigarette, c'est interdit.
Pas donner, pire que ça. Quelqu'un me demande maintenant, tu vas à l'étranger, voilà, je donne l'argent, achète-moi un paquet au duty free. Interdit. Mais c'est Yabed Vara Vera.
Même à sa femme.
Même sa femme.
J'ai oublié.
Non,
l'alcool,
c'est pas pareil.
Hein? Tu dis, j'ai oublié.
Ah, même à sa femme.
C'est interdit. Fumer, c'est interdit la Torah. Nishmartem od nefshotechem. Les rabbins, ils n'ont pas écrit ça. Ils ont dit, ceux qui ne fument pas, interdit de commencer à fumer. Ceux qui fument déjà, qu'ils essaient d'arrêter. Pour ne pas se mettre les fumeurs en situation trop désagréable. Mais c'est clair que c'est interdit. Maintenant, quand toi, tu vas acheter un paquet de cigarettes, il y a une loi comme ça. Si tu donnes un verre de vin à un nazir, Nazir n'a pas le droit de boire du vin. Tu fais un lave de roata de l'ifne even l'hiver le termichot. Tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. Un nazir, quelqu'un qui a fait un vœu de ne pas boire de vin. D'accord? Tu donnes un verre de vin, tu fais un interdit de l'ifne even le termichot. Tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. Chaque fois que tu fais un verre à quelqu'un, par exemple, tu lui vends maintenant un iPhone. D'accord? Un iPhone non couvert parental, machin, tout ça. D'accord? Alors, la règle est comme ça. Si c'est comme les deux côtés du fleuve, ça veut dire, il y avait un nazir qui était d'un côté du fleuve, et lui va aller boire du vin, il y a une vigne de l'autre côté du fleuve. Maintenant, il y a un seul bateau qui fait le passage. Celui qui fait le fait passer de l'un d'un côté à l'autre, il transmet l'interdit de la Torah de l'Ifnéver, le Tchernier Chod, de ne pas transmettre un embûche, c'est-à-dire faire un péché à son prochain, l'aider à faire un péché. Maintenant, s'il y a plusieurs bateaux, si ce n'est pas toi, c'est un autre. Alors ça descend à des rabananes, c'est interdit, ça s'appelle Messa Ibdara Vera. Il aide à faire une Avera. Il aide à faire une Avera, c'est interdit des rabananes. Maintenant, si c'est pas moi qui amène une cigarette, ça va être un autre. Le type va pas arrêter de fumer parce que je vais pas amener son paquet de cigarettes, il va continuer à fumer. Donc c'est pas à cause de moi qui fume, c'est à cause de moi qui laisse son île déserte, et c'est moi qui lui envoie le paquet de cigarettes une fois par mois, sinon, et ben qui crève sans cigarette. Parce que si j'envoie la cigarette, c'est l'ifné hiver, l'interdit de la Torah. Mais si maintenant, si c'est pas moi qui l'envoie, ce sera un autre, le fait d'envoyer, c'est interdit des rabananes. Donc c'est aussi interdit. Donc maintenant, ton père te demande de faire une Avera des rabananes, c'est permis oui ou non? Non? Donc non, maintenant t'es pas obligé de lui dire non, tu lui dis papa je veux pas parce qu'il va s'énerver, tu lui dis j'ai oublié.
Maintenant quelqu'un qui fume, qui veut demander à une cigarette et qu'elle est à une autre personne qui fume.
On sait qu'il y a
deux cigarettes. C'est Abdel Ravera.
Il va dire ouais, moi je veux pas que tu crèves ou quoi. Ah. Non, c'est pour toi, il va dire mais toi aussi tu fumes.
Ah ok, déjà je vais un enfer pour moi, j'ai un double enfer et pour toi et pour moi. Remplace tabac par héroïne. Par coke, d'accord? Hein? Alors, le type il shoot à l'héroïne. Il t'a pas une seringue pour moi? Bon, t'as 10 000 balles? Ouais, j'ai 10 000 balles, parce que ça coûte cher la seringue, d'accord? D'accord? Il lui vend une seringue. C'est permis? Interdit? Mais toi aussi tu te shootes, et alors? Même chose exactement. Le vin, l'alcool, vu que si on boit l'alcool avec modération, modération, on ne peut pas dire que ce soit mal. Je ne sais pas, c'est une cigarette.
Les médecins disent moins de cigarettes.
Non, c'est pas que ça fait rien, c'est faire rien du tout.
Je pense pas que ce soit comme ça.
Moins de 3 cigarettes par jour.
J'ai donné mon exemple souvent. Moi j'étais un très grand fumeur, j'ai arrêté à l'âge de 12 ans, Baruch HaShem. Ma mère m'a attrapé et elle m'a dit tu peux continuer à fumer. Donc j'ai arrêté, j'ai compris que c'était pour faire le malin. Ma mère m'a attrapé avec le paquet de cigarettes dans la poche, d'accord. Et qu'est-ce que c'est? Bon, tu continues, mais tu fais des respirations yoga, un peu très yoga comme ça, maman. Tu continues, tu fais des respirations, comme ça tu t'oxygènes. Aussi, elle m'a permis, alors il n'y a plus du coup la cigarette, c'est à 12 ans, c'est fumé, c'est ça le kiff, c'est de faire compte, tu es déjà un homme. Si ta mère t'autorise, t'as plus. Donc j'ai arrêté. Et des fois, je fume une taf à Pourim. Une taf. J'avale. Après 5 minutes, je suis par terre. Je vois la terre, le monde entier qui tourne, et je sens que je m'enfonce dans le plafond, qui est dans le plancher qui est fait de dalles, d'accord. Je m'enfonce dedans tellement je vois le monde qui tourne en... Quand je passe dans le couloir, quelqu'un fume ici, je n'ai pas d'odorat, mais je sens une oppression dans les poumons. Un peu de cigarette. C'est clair que ça fait du mal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, hein. Peut-être au niveau médical, hein.
C'est ça la question. C'est quoi l'idée d'arriver comment? Évidemment, il tape. Je ne fume pas du tout. Directement, il tape. Est-ce que je repars?
Moi, je pense que non, parce que je pense que ça fait déjà un dommage dans les poumons. Tu me diras, l'alcool aussi fait des dommages. Je sais pas, si on prend un tout petit peu d'alcool, tu vois que la Torah a autorisé le vin. On peut pas dire que l'alcool est interdit en soi. Si il s'avère que du point de vue médical, on te dit une cigarette ne fait pas de mal du tout, bon, alors je m'efface devant la séance sacrée. D'accord ? Mais je me demande si c'est comme ça. Pour l'alcool, voilà, idem, la drogue, on m'a demandé. La drogue, c'est pas pire que l'alcool. Non, c'est différent. Parce que je sache, quelqu'un qui fume du cannabis ou pire, des choses plus graves, dès la première dose, ça te fait déjà un effet.
Mais l'alcool aussi?
Non. Non.
C'est prouvé que l'alcool est plus dangereux que le cannabis.
Bu avec non modération. Mais si quelqu'un y boit maintenant ça de vin par jour, de vin rouge, c'est très sain. C'est très sain pour la santé. Hein, quoi? Réponds.
C'est de l'alcool.
C'est pas d'alcool, c'est de l'alcool. C'est de l'alcool.
Si tu fais d'absinthe tous les jours, je l'assure que c'est pas bon pour la santé.
Ah, j'ai pas compris. À d'absinthe.
La même dose d'absinthe.
Ok, donc c'est mauvais. Donc tout dépend combien. Maintenant, si tu prends dans ça de vin à 13%, tu as ça d'alcool. Donc ça d'alcool dans un whisky, ça te fait 1 cm de whisky dans un verre. Je sais pas si c'est sain, mais en tout cas, du point de vue alcoolique, c'est pas malsain parce que c'est la dose d'alcool qui est considérée comme bonne. Donc chaque fois pour répondre à la question, chaque fois qu'on fait un chesed qui est interdit, ça va pas. Et c'est courant.
Un mec que je connais pas, il me demande de l'alcool. Peut-être c'est grave pour lui. Est-ce que dans le peut-être, est-ce que je lui donne ou dans le peut-être je lui donne pas?
Quelqu'un qui demande de l'alcool déjà, c'est bizarre. Qu'est-ce qui lui arrive? Parce que...
Non, pas du tout. Imaginez qu'il soit une Souda. J'invite des gens à ma Souda chez moi. J'invite des gens, un mec il a ramené son ami. Il me tend son verre, je suis en train de servir mes amis d'alcool, il me tend son verre.
Il a l'air normal, il a pas l'air sous.
Je
n'en
sais rien, on
ne
sait jamais.
Ah bon, ok, ça va, tu vois. Si, normal, peut-être t'es sous le
chaton.
Tiens, prends le ballon.
Si c'est un baromètre, ça va.
Ouais, parce que sinon, dans ce cas-là, on ne donne plus rien.
Non, j'ai dit, il y a une chance normale des choses. On doit aller dans je te peux moi, chacun de faire un test alcoolique, chaque fois que tu veux donner un peu d'alcool chez toi à la maison.
Non, c'est normal, parce que c'est son travail. Il fait une amalade dedans aussi. Son travail. Il est payé pour servir les gens.
Un bar religieux, c'est pareil.
Dans un bar religieux séparé, quelqu'un y va. Alors, si le barman y donne de façon. Et s'il donne de façon modérée, ça va. Non modéré, ça va.
Resserre-moi.
C'est son travail.
Et
celui qui vend des cigarettes, non,
même les Français, des fois, ils disent ça. Ça fait
trop bien.
C'est marqué qu'on doit être prêt à perdre toute sa fortune pour ne pas transgresser un interdit des rabananes. Des rabananes. Et là, s'il peut le servir dans le bistrot d'en face, c'est des rabananes. Si c'est le seul bistrot, c'est des roïta. Des fois, c'est mis ça d'être cruel. Par exemple, l'élève reste au lit le matin dans son lit. Il fait froid hors de la couette. Tu laisses au lit, il va rater Kriat Shema. Il faut être cruel. C'est ça le chesed. L'éducation, c'est beaucoup. Les mères, il y a un verset qui dit « Yedé y a des nashim rahmaniot bishlou yeldehem. Les mains des femmes miséricordieuses ont boui leur enfant. Vont bouir leur enfant. C'est une malédiction. Il y aura une famine tellement grande que des mères vont voir leur enfant et vont les bouir pour les manger. C'est une malédiction qu'il y a dans Kitavo. Maintenant, on dit, en son allégorique, on dit qu'une mère, quand elle est trop miséricordieuse, elle boue son enfant. Une mère poule, d'accord ? Et tout ce que son fils veut, il faut donner. Elle va le super gâter. Ben, elle le boue. Elle a esquinté. Il faut être des fois cruel. C'est ça l'éducation. C'est savoir dire non au bon endroit. Et des fois, il faut être cruel. Je veux être corresset. Tout ce que mon fils, il veut. Il veut aller au cinéma. Il veut sortir. Il veut aller... Je sais pas, qu'est-ce qu'il veut ? 40 000 trucs, chocolat...
C'est pas vraiment un chesed.
Hein ?
C'est pas vraiment un chesed, une mère qui donne tout à son enfant.
Je veux dire, c'est cruel. C'est du anti-chesed. Le vrai chesed, des fois, c'est être cruel. Dire au gosse d'aller maintenant dormir. Et le matin, il faut se lever. Parce qu'il y a un yetzera. Quand tu te bats contre le yetzera de quelqu'un, pas toujours, mais des fois, quand tu te bats contre le yetzera de quelqu'un sur qui tu as une maîtrise, d'accord ? Et tu te bats contre son yetzera, c'est du chesed que tu fais, c'est clair.
Donc il y a une mitzvah de foutre
un drogué. C'est un problème énorme. Les drogués ont besoin d'argent pour leur dose quotidienne. Maintenant, comme expliquait un ancien toxicomane qui s'occupe de toxicomanes, il m'a dit que le toxicomane, il se lève le matin, il voit le monde entier, la jungle. La jungle. Il doit se battre. Maintenant, il y a un point faible, ses parents, sa mère. Et c'est que là, il peut faire pression. Ben, il fait pression. Et il y a des mères et des parents qui payent les doses de leurs enfants. Ou le gosse, il menace qu'il va tout casser, ou il fait des trucs, ou il pleure, ou n'importe quoi. Et les parents donnent les doses qui vont tuer leur enfant. Les parents creusent la tombe de leur enfant. Ils n'ont pas la force de dire non. Non, appelle les flics. Je connais des familles, ils veulent pas. Appelle les flics. Appelez-moi mon fils, appelez-moi les flics pour le mettre en taule. Je ne peux pas faire une chose pareille. Alors je comprends au niveau émotif, sans sentimental, mais c'est faux, le sentiment. Qu'il soit une bonne tannée, qu'il aille en tôle, et qu'il a fait une désintox, tu l'as sauvé. Là, tu l'es en train de lui donner sans cesse. C'est un exemple. Où est le chesed ? Le chesed, c'est aller en tôle. C'est ça le vrai chesed. Bien sûr. Non, bien sûr, je dis au micro, il n'y a aucun problème. C'est absolument vrai. C'est un vrai chesed. Il faut de la force pour ça. Pardon ?
Le bonheur de l'enfant, s'il va en prison
après
ses parents,
il fait pour un peu. Enfin, je comprends que c'est pour toi.
La méthode, elle est comme ça. La méthode, elle est comme ça. On lui dit, on t'aime. On veut t'aider. Mais pas comme toi tu veux, comme nous on veut. Tu veux qu'on t'aide ? Désintox. Il menace les flics. C'est comme ça la méthode. Et ça marche. Je dis d'un ancien toxicomane qui s'occupe depuis 15 ans, spécialiste. Et on a connu. D'accord ? C'est comme ça que ça marche. Donc on veut t'aider, mais pas comme toi tu crois, ta dose. Parce que lui, le drogué, il sent, c'est un pauvre type. Il sent qu'il est complètement aliéné par ça ou son besoin. Il aimerait s'en sortir, il n'a pas la force. Donc quelque part, il remercie les parents quand il reçoit l'argent, mais il est maudit. Parce qu'il sait très bien que les parents maintenant sont en train de l'enfoncer encore plus. Il ne supporte pas que les parents disent non parce qu'il a besoin de sa dose, mais quelque part il peut comprendre que c'est pour son bien. Et si on lui dit on veut t'aider, mais pas comme tu veux toi, comme nous on veut. Alors il entend ce message.
La prison pour un toxicomane, c'est pas drôle.
La prison, c'est s'il menace. Si il accepte d'aller en désintox, pas besoin de prison. Mais des fois il menace, donnez pas, je casse tout. Ok, les flics.
Même s'il menace pour un
toxicomane
en prison, ça sert à rien.
Hein ? D'habitude, la prison, il envoie après en désintox. Déjà en prison, normalement, il y a déjà une désintox, que je sache.
Hein ?
Forcé. Baruch Adonai, l'homme amen.